Chapitre 2. La jambe du pirate. Au monastère, Bérandol disait souvent qu'un des moyens de dissiper la peur devant un parti à prendre était d'en imaginer la pire des conséquences. Après un instant, Yéma ajouta. D'après lui, si l'on imagine la pire des conséquences éventuelles et qu'on prévoit la façon de l'affronter, alors on se montre ferme quand l'heure est venue d'agir. Vivacia lui jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Le garçon, qui était resté appuyé au bastingage de l'étrave durant une bonne partie de la matinée, regardait fixement les clapots du chenal. Décoiffé par le vent, ses cheveux noirs s'étaient échappés de sa queue de cheval. Son vêtement brun en lambeaux ressemblait davantage au haillon d'un mendiant qu'à une bure de prêtre. La figure de proue douée de sensations avait eu conscience de sa présence, mais avait préféré partager son silence et son état d'esprit. Il n'avait plus grand-chose à se dire, qu'il ne sache déjà. Même à présent, le garçon ne parlait que pour ordonner ses idées, non pour lui demander conseil. Elle le savait, mais elle répondit pour l'inciter à aller plus loin. « Et notre pire crainte, c'est ?» Yéma lâcha un profond soupir. « Le pirate souffre d'une fièvre erratique. Chaque accès le laisse un peu plus affaibli. La cause en est évidemment l'infection de son moignon. Toutes les morsures d'animaux sont dangereuses, mais celle d'un serpent de mer semble particulièrement venimeuse. La partie infectée doit être amputée, et le plus tôt sera le mieux. Il est trop faible pour subir une telle opération, mais, à mon avis, il y a peu de chances qu'il reprenne des forces. Alors je me dis qu'il faut agir vite. Mais il est peu probable, je le sais aussi, qu'il survive à l'amputation. S'il meurt, mon père et moi mourrons aussi. Ce sont les termes du marché que j'ai conclu avec lui. » Il marqua une pause, puis poursuivit. « Je mourrai. Ce n'est pas vraiment la pire des conséquences. La pire, c'est que tu devras continuer seul, esclave de ces pirates. » Il ne la regardait pas, mais continuait à contempler les vagues toujours changeantes. « Donc, tu comprends pourquoi je suis venu te voir ? C'est toi, plus que moi, qui as voix au chapitre dans cette affaire. Je n'y avais pas vraiment réfléchi quand j'ai passé mon marché avec Kenneth. J'ai parié ma vie et celle de mon père. Ce faisant, j'ai sans le vouloir parié aussi la tienne. Mais elle ne m'appartient pas. Tu as beaucoup plus à perdre que moi, je crois. » Vivacia hocha la tête, mais elle ne pensait déjà plus à Yéma.
« Kenneth ne correspond pas à l'idée que je me faisais d'un pirate. Le capitaine Kenneth, je veux dire. » Elle ajouta songeuse. « Tu viens de dire esclave ? Mais je ne crois pas qu'il me considère comme son esclave.
Moi non plus, je ne me faisais pas cette idée-là d'un pirate. Mais malgré son charme et son intelligence, nous ne devons pas oublier qu'il en est un. De plus, nous devons nous rappeler que si j'échoue, ce ne sera pas lui qui te commandera. Il sera mort. Impossible alors de dire qui sera ton maître. Ce peut être Sorcor, le second, ce peut être Eta, sa compagne, ou encore Saadar, qui tenterait à nouveau de te récupérer pour lui et les esclaves libérés. »
Yéma secoua la tête.
« De toute façon, j'échouerai. Si l'opération réussit, je devrais me résoudre à voir Kenny t'enlever à moi. Déjà, il te flatte, il te charme avec ses discours, et son équipage arpente tes ponts. Je n'ai plus mon mot à dire sur ce qui se passe à bord. Que Kenneth vive ou meure, je n'aurai bientôt plus le pouvoir de te protéger. »
Vivacia haussa son épaule en bois sorcier.
« Parce que tu m'as déjà protégé ? »
demanda-t-elle avec une certaine froideur.
« Non, sans doute, » répondit le garçon d'une voix contrite. Trop d'événements se sont produits, trop vite, pour nous deux. Il y a eu trop de morts, trop de changements. Je n'ai pas eu le temps de faire mon deuil, pas le temps de méditer. Je sais à peine qui je suis désormais. »
Pensifs, ils retombèrent dans le silence. Yéma se sentait aller à la dérive. Sa vie réelle, était loin, dans un monastère paisible, niché dans la tiédeur d'une vallée opulente,
couverte de champs et de vergers. S'il avait pu franchir le temps et la distance qui l'en séparaient, s'il avait pu se réveiller dans son lit étroit, dans sa cellule fraîche, il saurait, à n'en pas douter, renouer les fils de cette vie-là. Il se persuadait qu'il n'avait pas changé. Pas vraiment. Soit, il lui manquait un doigt. Il avait appris à s'en accommoder. Et le tatouage d'esclave sur son visage ne l'avait pas marqué au plus profond. Il n'avait jamais été véritablement un esclave. Le tatouage n'était que la vengeance cruelle de son père pour punir sa tentative d'évasion. Il était toujours Yémin. Après quelques jours de calme, il redécouvrirait en lui le prêtre serein. Mais pas ici. Les événements précipités qui s'étaient succédés l'avaient laissé en proie à tant d'émotions fortes qu'il avait plus ou moins perdu la faculté de ressentir. Les sentiments de Vivacia étaient aussi confus que les siens, ses expériences aussi brutales. Kyle Havre avait forcé la jeune Vivnef à servir de transport d'esclaves. Il l'avait livrée à toutes les sombres émotions de sa misérable cargaison. Yémin, membre de sa famille fondatrice, n'avait pas été capable de la réconforter. Sa propre servitude involontaire sur le navire avait enfielé le lien naturel qui eût dû les unir. Il s'était éloigné d'elle, et sa désaffection n'avait fait qu'accroître le désarroi de Vivacia. Pourtant, ils étaient restés côte à côte, clopin-clopant, comme des esclaves enchaînés l'un à l'autre. En une seule nuit sanglante de tempête, la mutinerie des esclaves l'avait délivré du commandement de Kyle Havre et de son odieuse condition. De l'équipage d'origine, Yémin et son père étaient les seuls survivants. Quand l'aube avait éclairé le ciel, le navire désemparé avait été pris d'assaut par les pirates. Le capitaine Kenneth et ses hommes avaient capturé Vivacia et se l'étaient approprié sans coup férir. C'est alors que Yémin avait conclu son marché avec Kenneth. Il tenterait de sauver le pirate si celui-ci lui laissait la vie ainsi qu'à son père. Saadar, un prêtre qui faisait partie des esclaves, chef de la rébellion, nourrissait d'autres ambitions. Il ne désirait pas seulement s'ériger en juge du père de Yémin, Kyle, mais aussi exiger de Kenneth qu'il rende la Vivacia aux esclaves auxquels elle appartenait de droit. Quel que soit celui qui l'emporterait, l'avenir pour Yémin et le navire était incertain. Pourtant, la Vivnef semblait déjà préférer le pirate. Devant eux, la Marietta fendait hardiment les vagues écumantes. Vivacia traçait son sillage avec ardeur. Il se dirigeait vers une place forte de pirates. Yémin n'en savait pas davantage. À l'ouest, l'horizon se fondait à la côte grasse des rivages maudits. Les fleuves rapides et fumeux de la région déversaient leurs eaux chaudes et limoneuses dans ce chenal, ce qui créait des brumes et des brouillards quasi permanents, recouvrant comme un manteau le rivage toujours changeant de haut fond. Les tempêtes, soudaines et violentes, étaient fréquentes durant les mois d'hiver et n'étaient pas impossibles même aux jours les plus cléments de l'été. Les îles des pirates n'étaient pas portées sur les cartes. À quoi bon relever sur une carte une côte qui se modifiait presque quotidiennement? La sagesse d'usage était de passer bien au large et de l'élonger au plus vite. Pourtant, la Marietta bondissait en avant avec assurance et la Vivacia la suivait. Manifestement, les pirates connaissaient fort bien ces chenaux et ces îles. Yémin tourna la tête et jeta un regard vers Vivacia. Au-dessus, dans le gréement, obéissant aux ordres que hurlait Brig, les pirates, matelots de premier brin, se déplaçaient lestement. Yémin devait reconnaître qu'il n'avait jamais vu la Vivacia manœuvrer avec autant d'habileté. Pirate, il l'était peut-être, mais c'était aussi d'excellents marins, disciplinés et organisés, qui vaquaient à leurs tâches avec autant de fluidité que s'ils faisaient partie intégrante du navire éveillé. Mais d'autres sur le pont gâchaient le tableau. La plupart des esclaves avaient survécu à la mutinerie. Délivrés de leurs chaînes, ils n'avaient pas tout à fait repris aspect humain. Leur chair portait encore les marques des fers et leur visage était flétri par les tatouages. Sous leurs haillons, on devinait des corps hâves et décharnés. Ils étaient bien trop nombreux sur la Vivacia.
Bien qu'ils occupassent les espaces en plein air aussi bien que les cales, ils paraissaient parqués comme du bétail. Ils restaient là, désœuvrés, en petits groupes sur les ponts où s'activait l'équipage, et ne bougeaient que lorsque les matelots leur faisaient signe de se pousser. Armés de chiffons et de seaux, les plus robustes travaillaient sans entrain à nettoyer les planches et les soutes. Le mécontentement se lisait sur nombre de visages. Yémin se demanda mal à l'aise s'il l'exprimerait en acte. Que ressentait-il à leur égard? Avant la rébellion, Yémin les avait soignés dans les cales. Il avait eu pitié d'eux alors. En vérité, il ne leur avait pas été d'un grand secours. Il leur avait prodigué les bienfaits douteux d'une eau salée et d'un chiffon mouillé, et son geste de miséricorde lui paraissait faux aujourd'hui. Il s'était efforcé de remplir ses devoirs de prêtre, mais les esclaves étaient trop nombreux. À présent, lorsqu'il les regardait, au lieu de se rappeler la compassion qu'il avait éprouvée pour eux, il se souvenait des cris et du sang lors du massacre de ses compagnons de bord. Il ne pouvait nommer l'émotion qui le submergeait quand il considérait ses anciens esclaves. Un mélange de peur et de colère, de dégoût et de sympathie qui lui déchirait l'âme et lui faisait honte. Cette émotion-là n'était pas digne d'un prêtre de ça. Alors il avait choisi de ne rien ressentir. Certains de ces matelots avaient peut-être mérité leur sort, selon le jugement des hommes. Mais qu'en était-il de Clément, qui s'était montré amical envers Yémin, et du violoneux Findo, et du Boutentrain Confrette et des autres? Ils auraient certainement mérité une fin plus douce. La Vivacia n'était pas un transport d'esclaves quand ils s'étaient embarqués. Ils étaient restés à bord après que Kyle avait décidé d'employer le navire à cet usage. Saadar, le prêtre esclave libéré grâce à la mutinerie, était convaincu que tous ceux qui avaient péri l'avaient bien mérité. Il jetait l'anathème sur eux. En tant que membres d'équipage sur un transport d'esclaves, ils étaient devenus les ennemis de tous les justes. Ce point laissait Yémin très perplexe. Il se raccrochait à l'idée réconfortante que ça n'exigeait pas qu'on jugeât son prochain. Ça se réservait le droit de juger, car le Créateur était seul à posséder la sagesse. Les esclaves à bord ne partageaient pas l'opinion de Yémin. Certains semblaient, en le regardant, se rappeler une voix douce dans l'obscurité et des mains qui tendaient un chiffon frais et humide. D'autres le considéraient comme un imposteur, le fils du capitaine qui jouait au charitable, mais qui n'avait pas fait grand-chose pour les libérer jusqu'à ce qu'ils eussent eux-mêmes pris les choses en main. En général, ils l'évitaient. Ils ne pouvaient le leur reprocher. Il les évitait de même, préférant passer la plupart de son temps sur le gaillard d'avant près de Vivacia. L'équipage pirate, aussi superstitieux que les esclaves, n'y venait que lorsque les manœuvres du navire l'exigeaient. La figure de proue vivante, douée de paroles, les effrayait. Si le fait contrariait Vivacia, elle n'en laissait rien paraître. Yémin, pour sa part, était heureux qu'il y eût encore un endroit à bord où il pût être relativement seul. Il appuya sa tête contre la lisse et tâcha de penser à quelque chose qui ne fût pas douloureux. À la maison, c'était bientôt le printemps. Les bourgeons devaient gonfler dans les vergers du monastère. Bérandol progressait-il dans ses études? Son pupille lui manquait-il? Il se demanda avec un profond regret ce qu'il serait en train d'étudier à cette heure s'il était resté là-bas. Il baissa les yeux vers ses mains. Jadis, elle recopiait des manuscrits, fabriquait des vitraux. C'étaient des mains d'enfant, agiles mais encore tendres. À présent, il avait des cales et il lui manquait un doigt. C'étaient des mains rudes de marin. Son doigt ne porterait jamais l'anneau sacerdotal. Ici, le printemps était d'autre sorte. La toile claquait dans la brise fraîche. Des nuées d'oiseaux migrateurs avec leurs cris obsédants volaient au-dessus d'eux. Les îles de chaque côté du chenal étaient devenues plus luxuriantes, verdoyantes, foisonnantes d'oiseaux des rivages qui se disputaient l'emplacement de leur nid. Il se sentit tiraillé par quelque chose.
Ton père te demande ?
Dit Vivacia à mi-voix.
Bien sûr. Il l'avait perçu à travers elle. Depuis la tempête, le lien entre le navire et lui s'était affermi et renforcé. S'il ne s'en irritait plus comme avant, il sentait que Vivacia, en revanche, lui était moins attachée.
Peut-être en cela leurs sentiments se rejoignaient-ils. Elle se montrait gentille avec lui, sans plus.
Elle avait la tête ailleurs et le traitait comme un enfant exigeant. D'une certaine façon, nous avons échangé nos rôles depuis le début du voyage,
fit-elle observer tout haut.
Il hocha la tête, n'ayant ni le courage ni le cœur de nier la vérité. Puis il redressa les épaules, se passa une main dans les cheveux et serra fermement les mâchoires. Il ne laisserait pas voir à son père les doutes qu'il ressentait. Tête haute, il se fraya un chemin sur le pont, en évitant les groupes d'esclaves et les matelots qui s'activaient. Il ne croisa aucun regard, personne ne le défia.
« Sottise, » pensa-t-il, de croire qu'il remarquait son passage. Ils étaient vainqueurs. Pourquoi se soucierait-il des faits et gestes du seul membre d'équipage survivant ? Au moins physiquement, il en était sorti indemne.
La Vivacia gardait des cicatrices de la mutinerie. Les taches de sang maculant ses ponts résistaient et résisteraient au ponçage. L'odeur persistait malgré le récurage quasi continu ordonné par Brig. La tempête avait aussi endommagé sa voilure et le ravaudage hâtif effectué par les pirates était bien visible sur la toile. Dans le château arrière, où les esclaves avaient traqué les officiers, les portes avaient été forcées, les huisseries faussées, les boiseries luisantes avaient volé en éclats. La Vivacia n'était plus le coquet petit vaisseau sur lequel Yémin s'était embarqué à Terrilville. Il eut honte soudain de constater l'état de la vive nef familiale.
C'était comme s'il avait vu sa sœur se prostituer dans une taverne.
Il songea alors à Althea avec désolation, en se demandant ce qu'il aurait éprouvé s'il avait embarqué de son plein gré, comme Mousse peut-être, sous les ordres de son grand-père. Il écarta ses pensées. Parvenu devant une porte éventrée, celle de la cabine de feu Gantry, gardée par deux faces de cartes patibulaires qu'il feignit de ne pas voir, il frappa. Maintenant, la pièce dévalisée, pillée, était la cellule où son père était retenu prisonnier. Il entra sans attendre de réponse. Kyle Havre était assis au bord de la couchette de bois nu. Le regard qu'il leva vers Yémin était asymétrique. Il avait un œil injecté de sang, le visage blême et tuméfié. Sa posture trahissait souffrance et désespoir, mais il accueillit son fils sur un ton acide et sarcastique.
« C'est gentil à toi de te souvenir de moi. Je te croyais bien trop occupé à ramper devant tes nouveaux maîtres. »
Yémin retint un soupir.
Je suis venu vous voir tout à l'heure, mais vous dormiez. Je sais que le repos vous est plus salutaire que tous mes soins. Comment vont vos côtes ?
En feu. J'ai une migraine atroce et j'ai faim et soif.
Il fit un petit signe du manteau en direction de la porte.
Ces deux-là ne me laissent même pas sortir pour prendre l'air.
Je vous ai apporté à boire et à manger tout à l'heure. Vous n'avez pas...
Si, j'ai trouvé. Un quart de pinte d'eau et de quignon de pain sec,
dit-il en contenant sa fureur.
C'est tout ce que j'ai pu obtenir. Il y a pénurie de nourriture et d'eau douce à bord. Pendant la tempête, une grande partie des vivres ont été gâtés par l'eau de mer.
Engloutis par les esclaves, tu veux dire ?
Kyle secoua la tête d'un air dégoûté, puis grimaça.
Ils n'ont même pas eu le bon sens de se dire qu'il fallait se rationner. Ils tuent les seuls hommes sachant naviguer en pleine tempête et ils mangent ou détruisent la moitié des vivres. Ils ne sont pas plus capables de se prendre en charge que des poulets de basse-cour. J'espère que tu es content de la liberté que tu leur as donnée. Ce sera leur mort autant que leur salut.
Ils se sont libérés tout seuls, père,
répondit Yémin avec obstination.
Mais tu n'as rien fait pour les arrêter.
Comme je n'ai rien fait pour vous empêcher de les enchaîner et de les embarquer.
Yéma reprit son souffle pour poursuivre, mais s'interrompit.
Quoi qu'il dît pour essayer de justifier ses actes, son père ne se rendrait jamais à ses raisons. Les paroles de Kyle touchaient la conscience meurtrie de Yéma. Était-il responsable de la mort de l'équipage puisqu'il n'avait rien fait? S'il en était ainsi, était-il aussi responsable de la mort des esclaves au cours de la mutinerie? Cette idée était trop douloureuse. D'une voix changée, il poursuivit. « Voulez-vous que je m'occupe de vos blessures ou que j'essaie de vous dénicher à manger ?»«
Tu as trouvé la pharmacie ?»
Yéma secoua la tête.
« Elle a disparu. Personne n'a reconnu l'avoir prise. Il se peut qu'elle soit passée par-dessus bord pendant la tempête. »«
Eh bien, dans ce cas, tu ne peux pas grand-chose pour moi !»
fit observer son père cyniquement.
« Mais la nourriture ne serait pas de refus. »
Yéma se força à la patience.
« Je vais voir ce que je peux faire, » dit-il doucement.
« Je n'en doute pas, »
répliqua l'autre d'un ton narquois.
Puis il demanda soudain en baissant la voix.
« Et qu'est-ce que tu vas faire pour le pirate ?»«
Je n'en sais rien, »
avoua Yéma avec franchise. Il regarda son père droit dans les yeux et ajouta.
« J'ai peur. » Il faut que j'essaie de le soigner, je le sais, mais j'ignore ce qui est le plus à craindre. Qu'il survive et que nous restions ses prisonniers ou qu'il meure et nous avec lui et que le navire continue seul.
Son père cracha sur le plancher, geste si inhabituel de sa part que Yéma en fut secoué.
Les yeux de Kyle étincelaient comme des pierres froides. « Je te méprise !»
grogna-t-il.
« Ta mère a dû coucher avec un serpent pour mettre au monde quelqu'un comme toi. J'ai honte qu'on t'appelle mon fils. Mais regarde-toi. Les pirates se sont emparés du navire de ta famille, le gagne-pain de ta mère, de ta sœur et de ton petit frère. Leur survie dépend entièrement du fait que tu reprennes le bateau. Mais tu n'y songes même pas. Non. La seule chose qui te préoccupe, c'est de savoir si tu vas guérir ou tuer le pirate qui te met le couteau sous la gorge. » Tu n'as même pas pensé une seconde à nous procurer des armes, ni à persuader le navire de lui résister comme il m'a résisté à moi. Et tout le temps que tu as perdu à faire la nounou avec les esclaves, as-tu seulement essayé de te faire seconder par l'un d'eux maintenant? Non. Tu traînes et tu prêtes la main à ce maudit pirate pour qu'il conserve le vaisseau qu'il nous a volé.
Yéma secoua la tête, d'étonnement autant que de chagrin.
Vous n'êtes pas logique? Qu'attendez-vous de moi, père? Je suis censé reprendre seul le navire à Kenith et à son équipage, forcer les esclaves à retourner dans les cales comme de la marchandise, puis naviguer jusqu'en Calcède?
Toi et ce fichu bateau avaient été bien capables de m'abattre avec mes hommes. Pourquoi ne montes-tu pas le navire contre lui comme tu l'as fait contre moi? Pourquoi ne peux-tu, pour une fois, agir dans le seul intérêt de ta famille? Il se leva, les poings serrés, comme s'il allait fondre sur son fils.
Soudain, octant de douleur, il se plaqua les mains sur les côtes, vacilla, et son visage, tout à l'heure cramoisi de colère, devint livide. Yéma s'avança pour le soutenir.
« Ne me touche pas !»
lança Kyle d'une voix rageuse. Il regagna sa couchette en titubant, se rassit, et braqua sur son fils un regard menaçant.
« Que voit-il quand il me regarde ?» se demanda le garçon. Quelle déception pour cet homme grand et blond que d'avoir engendré un fils petit, brun et menu comme sa mère, qui n'approcherait jamais de sa taille ni de sa force physique. À 14 ans, il gardait l'apparence d'un gamin. Mais ce n'était pas seulement physiquement que Yéma trompait les ambitions de son père. Moralement, il ne serait jamais à la hauteur de son géniteur. Je n'ai jamais monté le navire contre vous, père. Vous vous en êtes vous-même chargé par la façon dont vous l'avez traité. Je n'ai aucun moyen de le récupérer entièrement pour le moment. La seule chose que je puisse espérer, c'est nous garder en vie. »
Kyle Havre détourna la tête vers la cloison qu'il se mit à fixer d'un œil glacial.
« Va me chercher à manger »
aboya-t-il comme s'il était encore le commandant à bord.
« Je vais essayer »
répondit Yéma avec froideur.
Il fit demi-tour et quitta la cabine. Alors qu'il tirait la porte endommagée pour la refermer derrière lui, un des faces de carte s'adressa à lui. Les tatouages de maîtres successifs lui dévoraient la figure.
« Pourquoi tu acceptes tout ça de lui ?»
demanda le gaillard.
« Quoi ?»
fit Emma surpris.
« Il te traite comme un chien !»«
C'est mon père ?»
Il tenta de dissimuler son dépit.
Combien avait-il surpris de la conversation ?
« C'est un cul de jument !»
lâcha l'autre froidement en lui jetant un regard de défi.
« Et toi, tu es le fils d'un cul de jument ?»« La ferme !»
dit l'autre garde hargneusement.
« Le garçon n'est pas méchant. Si t'as oublié qui a été bon avec toi quand t'étais enchaîné, moi non !»
Ses yeux sombres revinrent se poser sur Yéma. Il secoua la tête en direction de la porte close.
« T'as qu'un mot à dire, petit gars. Je le fais ramper devant toi. »«
Non !»
répondit Yéma avec fermeté. « Je ne veux pas. Je ne veux pas que quiconque rampe devant moi. » Il sentit qu'il devait bien se faire comprendre.
« Je vous en prie, ne faites pas de mal à mon père. »
Le face de carte haussa les épaules.
« Comme tu veux. Je parle d'expérience, mon gars. C'est la seule façon d'agir avec un homme comme lui. Ou il rampe devant toi, ou c'est toi qui rampe devant lui. Il comprend que ça. »
« Peut-être. »
concéda Yéma malgré lui. Il fit quelques pas puis s'arrêta.
« Comment vous appelez-vous ? »
« Vilia. Toi, c'est Yéma, c'est ça ? » ?»«
Oui, Yéma. Je suis content de connaître votre nom, Vilia. »
Il regarda l'autre garde d'un air interrogateur. Celui-ci fronça les sourcils mal à l'aise.
« Décane !»
finit-il par dire.
« Décane ?»
répéta Yéma.
Il croisa résolument le regard de l'homme et hocha la tête avant de se détourner.
Il devinait à la fois l'amusement et l'approbation de Vilia.
Il s'était affirmé, et si peu que ce fût, il s'en sentait rasséréné.
En sortant sur le pont, il cligna les yeux dans la lumière éblouissante du soleil printanier. Saadar lui barra le passage. Le grand prêtre avait conservé l'air hagard des esclaves. La pression des fers avait laissé des marques rouges à ses poignets et à ses chevilles.
« Je te cherchais !»
annonça-t-il. Deux faces de carte le flanquaient comme des chiens de garde.
« Ah oui ?»
Yéma décida de continuer sur sa lancée. Il carra les épaules et regarda l'autre bien en face.
« C'est vous qui avez posté ces deux hommes à la porte de mon père ? »
demanda-t-il. Le prêtre errant ne se démonta pas.
« C'est moi !» L'homme doit être détenu jusqu'à ce qu'il soit jugé et que justice soit faite.
Il toisa le garçon de toute sa supériorité en âge et en taille.
Tu contestes le fait ?
Moi ?
Fit Yéma qui parut réfléchir.
Qu'est-ce que cela peut vous faire ? Si j'étais vous, je ne me préoccuperais pas de ce que pense Yéma Vestrit, mais bien plutôt de ce que pourrait penser le capitaine Kenith de mon initiative.
« Kenith est mourant, »
dit Saadar effrontément.
« C'est Brig qui commande ici. Il a l'air d'apprécier mon autorité sur les esclaves. Il donne ses ordres par mon intermédiaire. Il n'a pas discuté ma décision de faire garder le capitaine Havre. »«
Esclaves ? Je croyais qu'ils étaient tous des hommes libres aujourd'hui ?»
rétorqua Yéma avec un sourire. Il feignit de ne pas remarquer que les faces de carte suivaient attentivement la conversation. Les affranchis qui erraient sur le pont tendaient aussi l'oreille. Certains même s'approchèrent.
« Tu sais très bien ce que je veux dire !»
s'exclama Saadar, agacé.
« Généralement, on dit ce qu'on pense. »
La remarque resta un instant en suspens, puis il ajouta d'un ton égal.
« Vous me cherchiez ?»«
Oui. Tu es allé voir Kenith aujourd'hui ?»
« Pourquoi cette question ?»
rétorqua Yéma calmement.
« Parce que j'aimerais savoir à quoi m'en tenir sur ses intentions. »
Le prêtre qui avait travaillé sa voix lui donna une intonation victorieuse. Plusieurs visages tatoués se tournèrent vers lui.
« À Jamelia, on raconte que lorsque le capitaine Kenith capture un transport d'esclaves,
Il tue l'équipage et donne le bateau aux esclaves qui étaient à son bord afin qu'ils deviennent pirates à leur tour et poursuivent sa croisade contre l'esclavage. C'est ce que nous avons cru quand nous avons volontiers accepté son aide pour constituer l'équipage du vaisseau pris par nous. Nous nous figurions le garder. Nous espérions que ce serait l'instrument d'une vie nouvelle pour chacun de nous. Mais à présent, le capitaine Kenneth parle comme s'il s'attribuait le navire. Après tout ce que nous avons entendu sur son compte, nous ne pensons pas qu'il serait homme à nous enlever notre seul bien. En conséquence, nous désirons lui demander, clairement et nettement, à qui croit-il qu'appartient ce navire ?
Yéma le regarda droit dans les yeux.
Si vous désirez poser cette question au capitaine Kenneth, je vous y encourage. Il n'y a que lui qui puisse vous donner son opinion. Si vous me la posez à moi, je vous dirai la vérité.
Il avait baissé la voix intentionnellement afin que les hommes intéressés se rapprochent. Ce qu'ils avaient déjà fait pour la plupart, y compris certains membres d'équipage, à l'air menaçant.
Saadar eut un sourire sardonique. « Ta vérité, c'est que le navire t'appartient, j'imagine. »
Yéma secoua la tête et lui rendit son sourire.
« Le navire n'appartient qu'à lui-même. Vivacia est un être libre. Elle a le droit de décider pour elle-même. Ou bien seriez-vous prêt, vous qui avez porté les lourdes chaînes de l'esclavage, à infliger à autrui le traitement cruel qu'on vous a fait subir ?» En apparence, il s'adressait à Saadar sans regarder autour de lui pour constater l'effet de ses paroles sur les autres. Il garda le silence, comme s'il attendait une réponse. Après un instant, le prêtre émit un petit ricanement de dédain.
« Il n'est pas sérieux, » dit-il à la cantonade. « Par quelle sorcellerie la figure de proue parle ! C'est un exemple intéressant des supercheries pratiquées à Terrilville. Mais un navire est un navire, pas une personne, et de droit, celui-ci nous appartient. »
Seuls quelques esclaves approuvèrent en marmonnant. Un pirate réagit aussitôt.
« Tu causes mutinerie ?»
demanda le loup de mer grisonnant.
« Parce que si c'est ça, tu vas passer par-dessus bord avant d'avoir le temps de dire ouf !»
Le brèche-dent sourit d'un air décidément peu amène. À sa gauche, un grand pirate fit sonner un rire guttural, roula des épaules comme s'il s'étirait, subtile démonstration de force à l'endroit des faces de cartes de Saadar.
Les deux hommes tatoués se redressèrent, les yeux étrécis.
Le prêtre prit une expression outrée. Manifestement, il ne s'était pas attendu à cela.
Il se raidit et commença d'un ton indigné.
« En quoi cela vous regarde-t-il ? »
Le pirate râblé piqua du doigt la poitrine du prêtre en déclarant
« Kenneth, c'est notre capitaine, c'est lui qui commande, tu saisis ?»
Comme l'autre ne répondait pas, il montra les dents.
Saadar se recula pour éviter le doigt. Il allait s'éloigner quand le pirate lâcha
« Tu ferais bien de ne pas l'ouvrir contre Kenneth !» « T'aimes pas grand-chose. Tu vas lui causer en face au capitaine. Il est dur, mais juste. Tu baves pas derrière son dos. Si tu nous fais des embrouilles sur ce navire, ça te retombera dessus. »
Sans un regard en arrière, les pirates retournèrent à leur tâche. L'attention se reporta sur Saadar. Une étincelle de colère s'alluma dans ses yeux, mais il répondit d'une voix fluette et enfantine «
« Soyez assurés que je vais en parler au capitaine Kenneth. Soyez-en assurés !»
Yéma baissa la tête vers le pont. Peut-être son père avait-il raison. Peut-être y avait-il un moyen de reprendre aux esclaves et aux pirates le navire familial. Il y a profit à tirer de tout conflit. Son cœur se mit à battre étrangement. Il s'éloigna en se demandant d'où lui venaient de pareilles idées.
Vivacia était préoccupée. Bien qu'elle eût le regard fixé au loin vers la poupe de la Marietta, elle tournait toute son attention au-dedans d'elle-même. Le timonier avait la main ferme. Les matelots qui volaient dans son gréement étaient tous sans exception de vrais hommes de mer.
L'équipage décrassait ses ponts et ses cales, réparait les menuiseries, astiquait le métal. Pour la première fois depuis de longs mois, elle n'avait aucune inquiétude sur les capacités de son capitaine. Confiante dans la compétence de ceux qui la dirigeaient, elle pouvait se laisser entièrement absorber par ses propres préoccupations. À travers sa membrure de bois sorcier, une vive nef éveillée avait conscience de tout ce qui se passait à bord. Généralement, il s'agissait d'incidents futiles, insignifiants. Un cordage qu'on répare, un oignon qu'on émince dans la coquerie, peu lui importait. Le cours de sa vie n'en serait pas changé. Kenneth, c'était une autre affaire. Dans sa chambre, l'énigmatique capitaine dormait d'un sommeil agité. Vivacia ne pouvait le voir, mais elle le sentait d'inexplicable façon pour les êtres humains. La fièvre remontait. La femme qui s'occupait de lui était inquiète. Elle faisait quelque chose avec de l'eau fraîche et une serviette. La vive nef chercha à percevoir les détails, mais elle n'avait aucun lien avec cette femme. Elle ne les connaissait pas encore suffisamment tous les deux. Kenneth lui était beaucoup plus accessible que Eta. Ses rêves fébriles s'écoulaient imprudemment de lui, se répandaient en Vivacia comme le sang versé sur ses ponts. Elle les absorbait sans en discerner le sens. Un petit garçon était tourmenté, déchiré entre la loyauté qu'il devait à un père aimant mais incapable de le protéger, et sa fidélité à un homme qui le protégeait, certes, mais n'avait aucune affection pour lui. Maintes et maintes fois, un serpent surgissait des profondeurs de ses rêves pour lui arracher la jambe. La morsure de ses mâchoires était acide et glacée. Du tréfond de son âme, il cherchait à atteindre Vivacia. Il tendait vers une profonde et mutuelle compréhension qu'il se rappelait vaguement avoir connue dans son enfance.
« Ohé, ohé, qu'est-ce ? Ou plutôt devrais-je dire, qui est-ce ?»
La voix de Kenneth lui parvenait en un infime murmure. Elle secoua la tête et le vent lui ébouriffa les cheveux. Le pirate ne s'adressait pas à elle. Jamais, même dans ses communions les plus fortes avec Althea et Yémin, elle n'avait perçu aussi clairement leurs pensées.
« Ce n'est pas Kenneth, »
chuchota-t-elle pour elle-même. De cela, elle était certaine. Pourtant, il s'agissait bien de sa voix. Dans sa chambre, le capitaine pirate inspira profondément et expira en marmonnant des refus, des dénégations. Soudain, il poussa un gémissement.
« Non, ce n'est pas Kenneth, »
confirma la petite voix avec amusement.
« Pas plus que tu n'es la Vestrite que tu crois être. Qui es-tu ?»
Il était déconcertant de sentir quelqu'un qui cherchait à l'aveuglette à la faire réagir. Instinctivement, elle se rétracta pour éviter le contact. Elle était de loin beaucoup plus forte que lui. Quand elle se retira, il ne put la suivre. Ce faisant, elle rompit le contact fragile établi avec Kenneth. La frustration et l'agitation se mirent à bouillonner en elle. Elle serra les poings sur son flanc et prit une lame par le travers au lieu de la trancher. Elle toussa violemment. Le timonier jura et effectua une légère correction. Vivacia lécha ses lèvres humides d'embrun et d'une secousse rejeta ses cheveux en arrière. Qui était-il ? Elle maintenait ses pensées étales en tâchant de déterminer quel sentiment prédominait en elle, de la peur ou de la curiosité. Elle se sentait une étrange affinité avec l'être qui lui avait parlé. Elle avait écarté facilement son intrusion indiscrète, mais il lui déplaisait de penser que quelqu'un eût tenté de s'immiscer en elle. Désormais, elle ne le tolérerait plus. Quel que fût cet intrus, elle le démasquerait et lui tiendrait tête. Sur le qui-vive, elle fit une nouvelle tentative pour atteindre la cabine où Kenneth s'agitait dans son sommeil. Elle rejoignit sans peine le pirate.
Il se débattait toujours dans ses rêves fiévreux. Il se cachait dans un placard, poursuivi par une créature onirique qu'il appelait par son nom sur un ton doucereux. La femme posa une compresse fraîche sur son front et enveloppa d'un linge le moignon enflé.
Vivacia aperçut plus ou moins l'immédiat soulagement qu'il éprouva. L'esprit tendu vers lui. La vive nef s'aventura plus hardiment, mais ne découvrit personne d'autre.
« Où es-tu ? »
demanda-t-elle brusquement avec colère.
Kenneth sursauta en criant alors que le poursuivant de son rêve faisait écho aux paroles de Vivacia.
Etta se pencha sur lui en murmurant des paroles apaisantes. La question de la vive nef demeura sans réponse. Haletant, Kenneth émergea lentement à la conscience. Et il lui fallut un moment pour se rappeler où il était. Puis, un léger sourire de satisfaction étira ses lèvres desséchées par la fièvre.
Sa vive nef. Il était à bord de sa vive nef, dans la chambre bien aménagée du capitaine. Un drap de lin fin recouvrait son corps en sueur. Le cuivre et le bois astiquais reluisaient dans une cabine à la fois confortable et raffinée. Il distinguait le clapotis sur la coque du navire qui fendait les eaux du chenal. Il se sentait entouré de la présence vigilante de son vaisseau qui le protégeait. Il lui était une seconde peau, bouclier contre le monde extérieur. Il soupira d'aise et s'étouffa avec le mucus qui encombrait sa gorge sèche.
« Etta ! » croassa-t-il. « De l'eau !»«
Voilà !»
dit-elle sur un ton apaisant. C'était vrai. Chose étonnante, elle se tenait à son chevet, une tasse d'eau à la main. Il sentit la fraîcheur des longs doigts sur sa nuque quand elle l'aida à se soulever pour boire. Après quoi, elle retourna vivement l'oreiller. Avec un linge frais, elle lui bassina le visage, lui essuya les mains. Il reposait immobile et silencieux sous son contact, vaguement reconnaissant du réconfort qu'elle lui prodiguait. Il connut un instant de paix sans mélange. De courte durée. La conscience qu'il avait de sa jambe enflée s'accrut rapidement jusqu'à la souffrance. Il tâcha de l'ignorer. Mais la douleur pulsative, brûlante, s'intensifiait à chaque respiration. À son chevet, assise dans un fauteuil, sa compagne était occupée à coudre. Il la dévisagea, l'œil inerte. Elle semblait plus âgée que dans son souvenir. Autour de sa bouche et sur son front, les rides étaient creusées. Sa figure paraissait amaigrie sous le casque de cheveux noirs et ses yeux sombres agrandis.
« Tu as une tête affreuse !»
lui dit-il d'un ton réprobateur. Elle abandonna aussitôt son ouvrage et lui sourit comme s'il lui avait fait un compliment.
« C'est dur pour moi de te voir ainsi. Quand tu es malade, je ne peux pas dormir, je ne peux pas manger. »
« Quelle égoïste, cette femme !» Sa jambe à lui, elle l'avait donnée à manger à un serpent de mer, et voilà qu'elle essayait de faire croire qu'elle était inquiète, et il aurait dû la plaindre.
Il chassa cette pensée.
« Où est le gamin ? Yémin ?»
Elle se leva immédiatement.
« Tu veux le voir ?
Quelle question ! Bien sûr que je veux !
Il est censé me soigner la jambe. » Pourquoi n'a-t-il rien fait ?
Elle se pencha au-dessus de la couchette et lui sourit tendrement.
Il eut envie de la repousser, mais il n'en avait pas la force.
Je crois qu'il veut attendre que nous arrivions à Anse-au-Taureau. Il a besoin d'un tas de choses avant de te soigner.
Elle se détourna brusquement, mais il eut le temps d'apercevoir les larmes qui brillaient dans ses yeux.
Ses larges épaules étaient voûtées.
Elle avait perdu son port altier. Elle ne s'attendait pas qu'il survécût. Il en fut à la fois effrayé et furieux, comme si elle avait invoqué sa mort.
« Va me chercher ce garçon !»
lui ordonna-t-il durement, surtout pour l'éloigner.
« Rappelle-lui. Rappelle-lui bien que si je meurs, lui et son père mourront aussi. Dis-le-lui. »
« J'envoie quelqu'un le chercher. »
assura-t-elle d'une voix tremblante en se dirigeant vers la porte.
« Non, vas-y toi-même, tout de suite. Amène-le-moi, immédiatement. »
Elle revint sur ses pas et lui effleura le visage, ce qui l'agaça.
Si c'est ce que tu veux, dit-elle d'une voix lénifiante, j'y vais tout de suite.
Il ne la regarda pas s'en aller, mais suivit, l'oreille tendue, le bruit de ses pas précipités sur le plancher. Elle sortit en refermant doucement la porte derrière lui. Il l'entendit interpeller quelqu'un d'une voix irritée.
« Non, allez-vous-en! Je ne vais pas le déranger avec des bêtises pareilles en ce moment !»
Puis elle baissa le ton menaçante.
« Si vous touchez à cette porte, je vous tue sur le champ !»
La menace fit son effet car personne ne frappa. Il baissa à demi les paupières et se laissa emporter par le courant de sa souffrance. Comme un rasoir, la fièvre découpait la pièce en arêtes brillantes, en avivait les couleurs. La cabine douillette semblait se rétrécir, menaçant de s'écrouler sur lui. Il repoussa le drap et chercha un souffle d'air frais.
« Alors, Kenneth, que vas-tu en faire de ton galopin qui promet quand il viendra ?»
Le pirate serra fort les paupières. Il tenta de conjurer la voix.
« C'est amusant. Tu crois que je ne te vois pas quand tu as les yeux fermés ?»
L'amulette était sans pitié.
« Tais-toi ! Laisse-moi tranquille. Je regrette de t'avoir fait fabriquer. »
« Oh, tu me vexes. Se chamailler comme ça, après tout ce que nous avons enduré ensemble. »
Kenneth ouvrit les yeux. Il souleva le poignet et contempla le bracelet. La petite amulette en bois sorcier, sculptée à la ressemblance de son visage saturnien, leva les yeux vers lui en souriant aimablement. Les lanières de cuir la maintenaient solidement sur son pouls. La fièvre lui donnait l'illusion que la figure flottait au-dessus de lui. Il referma les yeux.
« Tu crois vraiment que ce gamin peut te guérir ? Non, tu n'aurais pas cette sottise. Bien sûr, tu es suffisamment désespéré pour le forcer à tenter l'opération. Tu sais ce qui m'étonne. Tu as tellement peur de la mort que ça te donne le courage d'affronter le scalpel du chirurgien. Pense un peu à cette chair tuméfiée, si sensible que tu peux à peine supporter le contact d'un drap. Tu vas le laisser y planter une lame affûtée, étincelante, argentée, jusqu'à ce que le sang la ternisse de carmin.
« Amulette, »
dit Kenneth en rouvrant des yeux étrécis.
« Pourquoi me tourmentes-tu ? »
Le porte-bonheur fit la moue.
« Parce que j'en ai le pouvoir. Je suis probablement le seul au monde à pouvoir tourmenter le grand capitaine Kenneth, le libérateur, le futur roi des îles des pirates. »
La petite figure ricana et ajouta d'un ton narquois.
« Brava pas du serpent de la passe intérieure. Dis-moi, que veux-tu du gamin prêtre ? Tu le désires? Il réveille dans tes rêves fébriles les souvenirs de ce que tu fus. Tu vas lui faire ce qu'on t'a fait?
Non, je n'ai jamais...
Quoi, jamais?
L'amulette raillait avec cruauté.
Tu crois vraiment que tu peux me mentir, lié comme nous le sommes? Je sais tout de toi.
Je t'ai fabriqué pour que tu m'aides, non pour que tu me tourmentes. Pourquoi te retournes-tu contre moi ?
Parce que tu me fais horreur,
répliqua l'amulette avec sauvagerie.
Je me déteste d'être devenu partie de toi-même et de t'aider dans ce que tu fais.
Kenneth poussa un soupir haché.
Que veux-tu de moi ?
Demanda-t-il. C'était un cri de reddition, un appel à la miséricorde ou à la pitié.
« Ah, voilà une question à laquelle tu n'avais jamais pensé. Qu'est-ce que je veux de toi ?»
L'amulette fit traîner les mots en les savourant.
« Et si je voulais que tu souffres ? Et si je prenais plaisir à te tourmenter ? Et si...
Des pas résonnèrent derrière la porte, les bottes d'État et le léger frottement de pieds nus.
« Sois gentil avec État !»
déclara la mulette précipitamment.
« Peut-être alors pourrais-je... »
La porte s'ouvrit et la petite figure se tut. Muette et inerte, elle était redevenue une breloque en bois sur un bracelet au poignet du malade. Yémin entra, suivi de la femme.
« Kenith, je te l'ai amené !»
annonça Eta en refermant la porte derrière eux.
« Bien, laisse-nous !»
Si cette maudite amulette croyait pouvoir le forcer à quoi que ce soit, eh bien elle se trompait. Eta parut interdite.
« Kenith,
tu crois que c'est prudent ?»«
Non, je crois que c'est stupide. Voilà pourquoi je te l'ai demandé. J'adore la bêtise. »
Il lança ces mots à voix basse. Il regarda la figure à son poignet, guettant une réaction. Elle demeura immobile, mais ses yeux minuscules étincelèrent. Elle mijotait probablement une vengeance. Peu importait. Tant qu'il aurait un souffle de vie, il ne tremblerait pas devant un bout de bois.
« Sors !»
répéta-t-il.
« Laisse-moi le garçon !»
Elle s'exécuta, le pas ferme, le dos très droit. Elle referma d'un coup sec la porte derrière elle, sans tout à fait la claquer. Dès qu'elle fut sortie, Kenith se hissa péniblement en position assise.
« Viens ici !»
dit-il à Yémin. Le garçon s'avança et le pirate écarta le drap d'un geste brusque qui dévoila dans toute sa splendeur sa jambe mutilée et putride.
« Voilà !»
déclara-t-il dégoûté.
« Que peux-tu faire pour moi ?»
Yémin blêmit. Il rassembla son courage pour s'approcher de la couchette et regarder le membre de plus près. L'odeur lui fit froncer le nez. Il leva alors ses yeux sombres vers Kenith et déclara avec simplicité et franchise.
« Je ne sais pas. C'est vraiment vilain. »
Il jeta un rapide coup d'œil à la jambe, puis planta son regard dans celui du pirate.
« Disons les choses carrément. Si on ne tente pas l'amputation, vous mourrez. Qu'avons-nous à perdre en essayant ?»
Kenith eut un sourire contraint.
« Moi ? Très peu à ce qu'il paraît. Mais il y a ta vie, celle de ton père, dans la balance. »
Yémin émit un rire bref, sans joie.
« Je sais très bien que je le paierai de ma vie si vous mourrez à cause de moi ou non. »
Il esquissa un imperceptible mouvement de tête en direction de la porte.
« Elle ne me laissera jamais vous survivre. »
« Tu as peur de cette femme, n'est-ce pas ?»
dit Kenith en élargissant son sourire.
« Tu as raison. Alors, que proposes-tu ? »
Il s'efforçait de conserver un ton bravache. Le garçon reporta les yeux sur la jambe, plissa le front et réfléchit. L'intensité de sa concentration le fit paraître plus jeune encore. Kenith jeta un coup d'œil à son moignon gangrené. Après quoi, il préféra scruter le visage de Yémin. Il eut une grimace involontaire quand le garçon tendit les mains vers sa jambe.
« Je n'y toucherai pas !» murmura Yémin. « Mais il faut que je détermine où s'arrête la partie saine et où commence l'infection. »
Il joignit les mains en coupe, comme pour y recueillir quelque chose. Les promena lentement de la plaie jusqu'à la cuisse. Les yeux réduits à des fentes, il inclinait la tête comme s'il écoutait attentivement. Le pirate observait le mouvement des mains. Que ressentait-il ? De la chaleur ou un influx plus subtil, tel le lent travail du poison ? Les mains du garçon, burinées par le dur labeur, conservaient la grâce nonchalante de mains d'artisan.
« Il te manque un doigt ?»
fit observer Kenith.
« Que t'est-il arrivé ?»«
Un accident, »
répondit-il distraitement.
« Chut !»
Kenith grimaça mais se tut. Il sentit les mains se déplacer au-dessus de sa chair. Leur pression fantôme réveillait en lui les pulsations de douleur. Il serra les dents, déglutit et réussit une fois encore à repousser la souffrance. Parvenu au milieu de la cuisse, les mains s'immobilisèrent. Yémin plissa le front, sa respiration s'approfondit, devint plus régulière, et il ferma les yeux complètement. Il semblait dormir debout. Kenith le dévisageait. De longs cils noirs se recourbaient sur ses joues, qui, si elles avaient perdu les rondeurs de l'enfance, ne montraient pas le moindre soupçon de barbe. À côté du nez, le petit sceau vert indiquant qu'il avait appartenu au gouverneur. Tout près, s'étalait un autre tatouage, où Kenith reconnut la grossière représentation de la figure de proue de la Vivacia. Il fut d'abord irrité qu'on eût ainsi gâché la beauté du jeune garçon. Puis, il remarqua que la crudité même du dessin contrastait avec l'innocence du visage. Etta avait été ainsi quand il l'avait découverte, une jeunette dans un salon de bordel. Capitaine Kenith ? Capitaine ? Il rouvrit les yeux. Quand les avait-il fermés ? Yémin hochait doucement la tête.
« Ici, » dit-il quand le pirate le regarda. « Si on coupe ici, je crois qu'on sera dans la partie saine. »
Il désignait un endroit sur la cuisse situé à une hauteur inquiétante. Kenith prit une inspiration.
« La chair saine, dis-tu ? Tu ne devrais pas plutôt couper en dessous ?»«
Non. Il faut couper un peu dans la chair saine, car elle cicatrise mieux. » Il s'interrompit et repoussa une mèche de cheveux de son front. « Je ne peux pas assurer que le poison n'a pas corrompu toute la jambe, mais c'est en amputant ici, je crois, qu'on aura les plus grandes chances. » Le visage du garçon devint pensif. « D'abord, il faudra que je pose des sangsues sur le mollet pour réduire la congestion et la gangrène. Certains guérisseurs au monastère tiennent pour la saignée, d'autres pour les sangsues. Il y a bien sûr un moment et un lieu pour l'un et l'autre moyen, mais à mon avis, les sangsues sont plus indiquées pour retirer le sang épaissi par une infection. » Kenith s'efforça de conserver son impassibilité. La physionomie tendue du garçon lui rappela l'expression de Sorcor quand celui-ci s'appliquait à échafauder une stratégie. « Puis, nous ferons une ligature ici, assez large, qui ralentira l'hémorragie. Elle doit serrer la chair sans l'écraser. Et je couperai dessous. Je tâcherai de conserver un pan de peau pour recouvrir la plaie. J'aurai besoin d'un scalpel affûté et d'une scie à denture fine pour l'os. La lame du scalpel doit être assez longue pour inciser proprement, sans déchiqueter. » Il mesura avec ses doigts. Pour les sutures, certains utilisent du fil en boyau de poisson, mais au monastère, on dit qu'il vaut mieux employer les cheveux même du patient, car le corps reconnaît ce qui lui appartient. Vous avez de beaux cheveux longs, capitaine, aux boucles assez souples pour être étirés, ils feront admirablement l'affaire. »
Le gamin cherchait-il à lui faire perdre son sang-froid, ou avait-il complètement oublié qu'il s'adressait au malade en personne ?
« Et pour la douleur ?»
demanda Kenith avec un entrain forcé.
« Votre propre courage, capitaine, c'est ce qui vous sera le plus utile. »
Les yeux sombres du garçon se plantèrent droit dans ceux du pirate.
« Ce sera long, mais je ferai attention. De l'eau-de-vie ou du rhum, avant qu'on commence. Si elle n'était si rare ni si coûteuse, je préconiserais l'essence d'écorce de quasi, qui engourdit merveilleusement les plaies. Elle n'est efficace que sur le sang frais. Elle n'agirait qu'après l'amputation, » dit-il en secouant la tête pensivement. « Vous devez bien choisir les hommes qui vous tiendront. Il faut qu'ils soient grands et forts, qu'ils aient le courage de ne pas vous obéir si vous exigez qu'ils vous lâchent ou si vous les menacez. »
Kenith se sentit accablé. Il se refusait à penser à l'humiliation et à la honte qu'il allait devoir affronter. Il rejetait l'inéluctable. Il devait bien y avoir moyen d'éviter l'atroce souffrance, la faiblesse. Comment s'y résoudre, sachant qu'après avoir supporté tout cela, il risquait pourtant de mourir ? C'est qu'alors il aurait l'air ridicule.
« Et il faut tirer un peu, puis faire une ou deux sutures. Yéma marqua une pause comme s'il attendait une approbation.
« Je n'ai jamais pratiqué cette opération moi-même, »
reconnut-il abruptement.
« Je veux que vous le sachiez. Je l'ai vu faire deux fois. La première sur une jambe gangrenée, l'autre fois sur un pied et une cheville écrasée. J'assistais le chirurgien, je lui passais les instruments, je tenais le seau. »
Sa voix s'éteignit. Et il se passa la langue sur les lèvres et dévisagea le pirate, les yeux ronds.
« Qu'y a-t-il ? »
demanda Kenneth.
« Je tiens votre vie entre mes mains, » dit-il, stupéfait.
« Et moi, la tienne, »
rétorqua le pirate.
« Et celle de ton père ?»«
Ce n'est pas ce que je veux dire, »
répondit Yémin d'une voix rêveuse.
« Ce pouvoir vous est sans doute familier. Moi, je ne l'ai même jamais souhaité. »